présent à mettre en œuvre ces décisions. Et cela est lié d'une part au fait que la Commission n'a pas la plénitude de ses pouvoirs, et deuxièmement au fait que les États eux-mêmes qui ont adopté ces décisions sont aussi réticents parfois à accepter que ces décisions soient appliquées. Cela constitue un vrai boulot d'étranglement auquel il faut trouver une solution.
Monsieur le ministre, vous avez été coordinateur de l'ONU au Rwanda. Est-ce que selon vous, Paul Kagame a les moyens de réformer l'Union africaine?
Je crois qu'il a les moyens de réformer cette organisation, mais il ne va pas la réformer seul. C'est un homme de caractère, c'est un homme qui sait mettre en œuvre les décisions qu'il prend, mais c'est surtout un homme qui est caractérisé par une vision. Il n'est que de voir le progrès que le Rwanda a pu accomplir en si peu de temps, et je peux vous dire que des choses vont changer. Mais encore une fois, ce n'est pas tout seul. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le président Kagame aura besoin, bien entendu, de la coopération de ses pairs. Et je crois qu'il ne s'est pas trompé lorsque, dans le plan de réforme, puisque n'oublions pas que c'est lui qui a été le coordonnateur du plan de réforme depuis 2 ans maintenant, il ne s'est pas trompé lorsqu'il a proposé que l'organisation soit désormais dirigée par une troïka. Le président sortant, le président en exercice, mais aussi le président à venir. Je crois que c'est une stratégie très intelligente. Je connais la vision, je connais la capacité de Paul Kagame, et je n'ai aucun doute qu'avec son passage, beaucoup de choses changeront. Mais il ne pourra pas le faire seul.
Henri Désiré Zouzi, partagez-vous ce même optimisme?
Alors, je dirais qu'à chaque sommet, son lot d'annonces. Depuis 1963, nous n'avons pas été épargnés par des annonces qui souvent étaient restées lettres mortes. Pour ma part, je retiendrai la volonté, évidemment, de pouvoir doter l'Union africaine d'une capacité d'auto-financement. Je pense que c'est le point le plus important. Je regrette néanmoins que l'on ne soit pas allé suffisamment loin par rapport notamment aux défis sécuritaires, avec bien évidemment le phénomène terroristes et djihadistes. Pour le reste, eh bien, je partage tout à fait le point de vue défendu par M. le ministre des Affaires étrangères.
Alors, le défi sécuritaire, nous y reviendrons. Je me tourne de nouveau vers vous, M. le ministre. Comment se positionne votre pays, le Bénin, sur la taxe de 0,2% sur certains produits?
Vous savez, le Bénin de Patrice Talon est un Bénin qui, décidément, a pris et résolu à participer à la construction de notre organisation. C'est ce que le président Patrice Talon a voulu affirmer en se rendant pour la première fois au sommet cette année. Sur la question de la taxe, il est très clair que nous avons fait 2 choses. D'abord, nous avons observé, nous sommes acquittés de l'obligation qui nous était imposée de contribuer selon l'ancien mode de financement, donc nous sommes à jour de nos cotisations, et nous avons très vite aussi introduit dans notre loi de finances 2018 les modalités pratiques, les dispositions qui permettent de verser à l'organisation à l'Union africaine de verser les 0,02% sur les importations éligibles, les taxes sur les importations éligibles. Nous sommes totalement favorables à cela. On ne peut pas prétendre bâtir une union si on ne s'en donne pas les moyens. Il n'est pas acceptable qu'après plusieurs décennies, ce soit encore des partenaires extérieurs qui fournissent à l'Union africaine les moyens de son financement. Le Bénin, mon pays, est donc favorable à cet effort. Nous avons des contraintes en interne, mais il faut que chacun prenne un peu sur lui pour que nous puissions avoir une union qui fonctionne efficacement.
Ibrahim Akan, quelle autre méthode pourrait permettre l'autofinancement tant souhaité par l'Union africaine?
Je pense que l'équipe de Kaberuka avait proposé beaucoup de choses, les taxes sur les billets d'avion, les taxes sur les appels téléphoniques et autres. Je suis persuadé que cette nouvelle méthode de financement de l'Union est un bon départ. Mais en même temps aussi, je reste un tout petit peu sceptique parce que l'expérience de la CEDEAO, et M. le ministre le sait bien, a montré aussi que cette méthode a des limites, puisque la CEDEAO elle-même est dans un processus de diversifier ses sources de revenus, parce que se fonder simplement sur une taxe de 0,02% peut, dans 5-10 ans, montrer des limites. Et donc, on sera obligé, comme la CEDEAO, d'avoir à ensuite trouver deux ou trois autres sources de financement. Je pense que, oui, c'est un bon départ, mais il faudrait que l'Union sache que ce système a beaucoup de limites et qu'il devrait aussi voir dans l'expérience des régions qui l'ont déjà utilisé pour voir ce qu'il faut faire dès le départ pour assurer une certaine pérennité du financement de l'organisation. C'est quand même important pour à la fois l'image de l'organisation, mais aussi pour l'efficacité de son action sur le terrain.
Henri-Désiré Nzouzi, quelle autre méthode pour arriver à l'autosuffisance ?
Alors, on vient d'évoquer celle qui a été proposée, mais la méthode la plus simple, c'est tout simplement que les États s'acquittent de leur contribution. Voilà, je pense que c'est une discipline continentale qui devrait être rappelée, qui devrait être érigée en règle, je dirais, cardinale, parce qu'il faut que les pays soient en capacité de prendre leurs responsabilités. L'Union africaine n'est pas là uniquement pour résoudre les crises ou les problèmes, il faut que ses membres puissent s'acquitter normalement de leurs obligations.
Alors, je vous propose de prendre des commentaires recueillis sur la page Facebook VOA Afrique concernant le 30e sommet de l'Union africaine. Nous avons Auguste Junior en Côte d'Ivoire. Avant de lutter contre la corruption en Afrique de manière efficace, il faut la magistrature, qu'elle soit séparée de la présidence et que le ministre de la Justice soit élu par les magistrats ou les députés. Paul Kagame risque de croiser des présidents élus par l'Occident, des dictateurs prêts à saboter ses propositions. Martin Bidoudoua, en République démocratique du Congo, tant que l'ONU vivra, les propositions ou les pistes de solutions aux problèmes du développement de l'Afrique resteront un éternel rêve, car la communauté internationale est un obstacle au décollage politico-économique du continent. Monsieur le ministre, la lutte contre la corruption vous paraît-elle possible ou même crédible, comme le souligne l'un de nos internautes ?
Je ne vous ai pas bien reçu, parce qu'il y a eu un bug.
La lutte contre la corruption.
Vous voulez vous répéter votre question ?
La lutte contre la corruption, oui, vous paraît-elle possible ?
Bien sûr. Vous savez, la corruption est un mal qui ronge et qui ruine la croissance de nos pays. Et je pense que c'est une nécessité pour que l'Afrique puisse décoller. 55 ans après la création de l'organisation notre organisation, il était important que l'on puisse regarder les choses en face et mettre ce fléau comme l'un des thèmes majeurs à discuter. Je suis heureux que le président ait retenu ce thème pour 2018, même si on n'en a pas trop parlé. Mais le fait déjà d'annoncer cela montre un engagement. Il est clair que si les pays arrivent maintenant à mettre en place un système qui permet un financement et qui permet d'autonomiser l'organisation, il va falloir une gouvernance rigoureuse autour de cela. Il va falloir que l'on puisse rendre compte aux contribuables africains de ce que l'on fait de cet argent au niveau de l'organisation. Donc le mauvais message serait qu'au niveau de l'organisation, on puisse avoir des cas de corruption. Je suis persuadé qu'avec le leadership qui se met en place, cette chose sera évitée, puisque le Rwanda que dirige Paul Kagame a bien prouvé que la lutte contre la corruption est une lutte qui est implacable et qui peut permettre de développer. Mais je voudrais quand même corriger une chose que j'entends depuis que nous sommes au début de cette émission.
Allez.
Il ne s'agit pas d'une taxe Kagame. Il ne s'agit pas d'une taxe Kagame, il ne s'agit pas d'une proposition du président Kagame.
Non, elle existe effectivement depuis deux ans.
Voilà, c'est le président Idriss Déby qui a confié au président Kagame, en accord avec tous ses pairs, la mission d'animer l'équipe de la réforme institutionnelle. Cette réforme porte sur presque toutes les institutions, ce n'est pas seulement la taxe. Et l'équipe animée par Donald Kaberuka, avec la participation de Carlos Lopez, de Vera Songwe, pour ne citer que cela, a fait une série de propositions. D'ailleurs, c'est la première fois que l'on voit les ministres des Finances inviter plusieurs plusieurs fois à réfléchir sur les voies et moyens à adopter pour pouvoir permettre le financement de cette organisation. Donc je crois qu'il faut corriger un peu ce qu'on appelle des narratives, il faut corriger le discours. Il ne s'agit pas d'une taxe gammée, il s'agit d'une taxe qui a été mise en place par l'organisation, initiée par Idriss Déby, poursuivie par Alpha Condé et portée sur les fonds baptismaux par le président Kagame. La chose la plus importante, c'est de bien se dire, il est bien de le rappeler, de dire que c'est ensemble que les présidents ont adopté lors du sommet de Kigali en 2016 cette décision-là. Déjà, il y a plus de 20 pays qui ont commencé par contribuer de cette manière-là. La mesure est donc déjà mise en œuvre et l'organisation va bénéficier d'un paquet financier très intéressant. Mais j'insiste sur la nécessité pour l'Union africaine de faire preuve de rigueur dans la gestion, de faire preuve de discipline budgétaire pour que les États membres soient encouragés, que ceux qui sont encore réticents puissent se décider à rejoindre le train du progrès.
Alors je vous propose de poursuivre cette discussion après une courte pause.
La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer.
VOAfrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être.
Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts.
Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de la Voix de l'Amérique.
De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé lundi. Quel regard portez-vous sur cette organisation panafricaine? Issa Napon pour VOA Afrique a posé la question dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso.
L'Afrique elle-même doit cotiser. C'est l'Afrique elle-même qui doit avoir ses sources de financement pour relever ce défi, pour dire que personne d'autre ne viendra développer l'Afrique à la place des Africains.
Il ne faut pas qu'il y ait des mesures exceptionnelles d'un pays à un autre. Il faut que ce soit une véritable union et cela doit se ressentir donc dans la pratique.
J'ai dû comprendre même que le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le président du Burkina Faso a demandé la solidarité. La solidarité, c'est quoi? Le terrorisme ne doit plus être une affaire de 3 ou 4 personnes, 4 États. En réalité, c'est l'affaire de toute l'Afrique. À 2 pays, 3 pays, nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme.
On ne peut pas vouloir la démocratie et ne pas appliquer les règles de la démocratie. Il y a des présidents qui ont fini leur mandat qui refusent de partir. Et au sein de l'Union, aucun chef d'État n'a le droit de dire non. Sérieusement, ceux qui ont fini leur mandat, ils acceptent les règles de la démocratie, c'est le jeu.
Je pense qu'il faut d'abord que nos communautés régionales marchent d'abord.
Comment se fait-il qu'on puisse s'en sortir, on puisse être indépendant, quand bien même on dépend des autres? Naturellement, il y a un problème.
Je ne sens pas la solidarité dans l'Union africaine.
Toujours avec nous en duplex de Paris, Aurélien Abegnossi, ministre des Affaires étrangères du Bénin. En duplex de Bruxelles, Henri-Désiré Nzouzi, analyste politique. À Dakar, Ibrahima Kane, directeur de plaidoyer auprès de l'Union africaine. Alors nous avons pu voir des avis divergents à Ouagadougou. Selon vous, monsieur le ministre, selon vous, est-ce que l'Union africaine peut régler les problèmes de guerre sur le continent et les différents conflits?
J'espère. Je sais que c'est dans un effort de convergence d'idées, de convergence d'intelligence et dans une concertation qui met l'Afrique au-dessus de tout, que se nourrissant des expériences du passé, des expériences, des échecs du passé, que les dirigeants de l'Afrique nouvelle devraient pouvoir régler ces problèmes-là. Vous savez, le problème de l'Afrique n'est pas seulement un problème vraiment de pauvreté, c'est un problème de rigueur, c'est un problème de discipline, un problème d'organisation, et je crois que de plus en plus on voit apparaître des dirigeants qui refusent cette fatalité-là. Et je pense, et on connaît des exemples où l'action concertée des présidents a permis de mettre fin à des conflits, mais on connaît hélas, malheureusement encore, des situations qui ne sont toujours pas réglées, et il est à souhaiter qu'avec la nouvelle approche, on puisse trouver des solutions.
Ibrahima Kane, par rapport à la rigueur, comment pourrait se matérialiser la zone de libre circulation?
La zone de libre circulation, elle dépend de la manière dont les États ouvrent leurs frontières. Vous savez que depuis quelques années, depuis 3 ans à peu près, la Banque africaine de développement a développé un index pour montrer quels sont les États qui sont vraiment des États ouverts du point de vue de leur accès et les États qui sont fermés. Le simple fait d'avoir ce document-là a permis à beaucoup d'États qui ne veulent pas se retrouver à la...
Alors, on vous a perdu, je ne vous entends plus. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur l'ouverture des frontières, Henri-Désiré Nzouzi ?
Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Vous savez qu'ici, en Europe, la construction s'est faite sur la base de coopération dite renforcée. Cela fait plusieurs années déjà que vous avez des blocs régionaux économiques africains, comme la CEDEAO ou bien la CEMAC, qui ont déjà expérimenté cela. Et donc, aujourd'hui, on souhaite développer cela au niveau continental. C'est un pari extrêmement audacieux, mais je serais plutôt d'avis que l'on puisse d'abord parachever le processus en cours au niveau des organisations régionales et sous-régionales et trouver peut-être des passerelles qui seraient de nature à renforcer cette intégration.
Alors, renforcer cette intégration, Aurélien Abegnossi, quelle est votre position sur la réduction du nombre de sommets de l'Union africaine à un par an? Est-ce que cela va apporter quelque chose?
Cela peut apporter quelque chose, c'est dans un souci d'efficacité que plusieurs présidents ont souhaité que l'on puisse réduire le nombre de réunions. Il me semble que lors du huis clos, même si les discussions du huis clos doivent rester dans ce cercle-là, mais je ne trahis pas un secret lorsque je dis que le président des Comores, le président Achoumani, a proposé que l'on puisse réduire le nombre de réunions. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la libre circulation tout à l'heure.
Allez-y.
Moi, je viens d'un pays qui a décidé au mois d'août 2016, et nous avons fait, le président Talon a fait cette annonce à Kigali lors de sa première visite officielle dans ce pays-là, après sa prise de pouvoir. Nous avons aboli le visa pour tous les ressortissants africains. C'est une décision audacieuse. Et je peux vous dire que presque 2 ans après aujourd'hui, nous n'avons pas eu plus de terroristes dans le pays qu'il y en a eu dans le passé. Il n'y en a d'ailleurs pas eu.
Alors, pas de terrorisme, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça a été bénéfique pour le pays?
Je crois que ça a été bénéfique parce que les barrières, pour permettre la circulation des biens, il faut d'abord que les hommes circulent. Et je crois que cela essaie de créer une sorte d'émulation où l'on sait que les ressortissants africains, au moins dans les pays africains, peuvent circuler comme ils veulent. Mais vous savez, comme disait M. Nzouzi tout à l'heure, c'est depuis plusieurs décennies maintenant que l'on peut voyager de Lagos jusqu'à Dakar juste avec une carte d'identité. Les 15 États ont adopté cette méthode-là. Nous n'avons fait que l'étendre à l'instar du Rwanda, à tous les autres Africains, et je crois que c'est une bonne chose. Il faut que les pays aient l'audace d'ouvrir leurs frontières déjà aux ressortissants africains. Oui, c'est au niveau des communautés régionales qu'il faut prendre cette mesure-là pour pouvoir se mettre en harmonie avec ce que l'on prône. Il ne sert à rien d'aller à 10 tous les ans, de dire nous voulons nous intégrer, nous voulons être unis, et de maintenir des barrières inutiles. Mais cela dit, pour répondre directement à votre question, je crois que l'organisation doit trouver des méthodes, doit améliorer son mode opératoire, et pour moi, la réduction du nombre de sommets fait partie des méthodes auxquelles je suis favorable.
Ibrahim Akane, est-ce que vous pensez que le fait d'ouvrir aussi les frontières pour les marchandises va permettre également de pouvoir exporter, importer plus facilement sur le continent?
Tout à fait. Moi, je suis africain, mais j'ai vécu pendant plusieurs années en Afrique de l'Est. Je vois la grande différence entre une communauté économique qui est vraiment très intégrée et une communauté économique qui ne l'est pas. La CEDEAO, elle est, comme l'a dit Monsieur le ministre, elle est ouverte aux personnes, mais les marchandises ne circulent pas. Les marchandises ne circulent pas beaucoup, contrairement à ce qui se passe au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Et je pense qu'un traité comme celui qui vient d'être adopté va vraiment pouvoir faciliter cette suite.
Alors je propose de prendre d'autres commentaires recueillis sur la page Facebook de VOA Afrique concernant le 30e sommet de l'Union africaine. Arsène Kamba Tshibimbi, en République démocratique du Congo, je suis pour l'indépendance financière de l'Afrique et je souhaiterais que les dirigeants africains cessent de nous humilier en vendant notre continent aux étrangers. Piro Namata au Niger, les pays africains attendent et copient toujours l'extérieur. Nous devons prendre nos réalités en compte, promouvoir et mettre en valeur nos produits. Consommons africains. Monsieur le ministre, est-ce que selon vous, à terme, l'organisation africaine pourrait être dépendante et ne plus avoir recours à la communauté internationale pour quelque affaire que ce soit?
Mais oui, c'est le vœu, c'est le souhait que tout un chacun a, parce que lorsque on finance votre fonctionnement, on peut vous imposer des décisions. Il est heureux que déjà cette étape, après 55 ans, l'organisation est née aujourd'hui il y a 55 ans, il est heureux que cette étape ait été déjà proposée et est en train d'être franchie. Je sais qu'il y a quelques obstacles, mais vous savez, le plus long voyage commence par le premier pas. Je pense que c'est un signal fort que d'amener l'Union africaine à pouvoir se financer, à pouvoir prendre des décisions et à pouvoir être autonome de ce point de vue-là. L'Afrique, comme dit Paul Kagame, elle n'est pas pauvre. Elle est seulement mal gérée. Il le dit très bien, la formule en anglais est très belle. Africa is not poor, it's just poorly managed. Et je crois qu'il est temps que les Africains se ressaisissent et qu'ils prennent leur destin en main et que nous allions au-delà des discours, que nous prenions des mesures concrètes. Et je suis totalement favorable à ce que disait l'un des participants à ce débat tout à l'heure en disant qu'au niveau des communautés régionales, il y a du travail concret qui peut être fait par le respect des décisions qui sont prises, la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Et là, nous pourrions évoluer assez rapidement.
Henri Désiré Nzouzi, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Encore qu'il faille effectivement se doter des moyens nécessaires pour y parvenir. Vous savez que l'Afrique est diverse et variée, avec des différentiels entre certaines zones économiques régionales et sous-régionales. C'est pour ça que je ne saurais trop insister sur la notion de coopération renforcée qui permette au fond à un groupe d'États pionniers d'aller plus loin que les autres sur certaines matières sensibles, à charge pour les autres pays africains de pouvoir les suivre sur cette voie et de trouver le consensus le plus large possible.
Ibrahim Akane, on l'a évoqué succinctement, le Maroc revient dans l'Union africaine. Elle était sortie au moment de Polisaria. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut rétablir, résoudre ce problème au Sahara occidental, pardon?
Ce sera compliqué, madame. Très compliqué parce que le Maroc refuse de reconnaître la RASD et la RASD est un membre à part de l'Union africaine. Et donc le Maroc est aujourd'hui presque dans la pratique un État qui occupe un autre État africain. Et quand on voit les actions que le Maroc mène à l'heure actuelle dans les forats africains internationaux, on voit mal comment on doit trouver une solution à cette.
En tout cas, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir pu participer à cette émission. Elle s'achève ainsi. C'était Ekia Badou avec vous. Merci à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Golf TV qui diffuse Washington Forum à Cotonou, au Bénin.